Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal avec vous, Yasmine Akatou.
Le gouvernement a décidé de mettre le paquet sur ce sujet de l'emploi des jeunes.
6,5 milliards d'euros sur la table pour aider les jeunes. Ils seront 7 à 800 000 à arriver sur le marché du travail. Une arrivée qui sera compliquée, prévient Jean Castex. Olivier Samin nous expliquera les détails de ce plan. Un soldat français a été tué au Mali. Il appartenait au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Deux autres soldats ont été blessés. Les détails de l'attaque en début de journal avec Didier François. Gérald Darmanin a débarqué sur la Côte d'Azur pour une visite surprise. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Nice cet après-midi dans le quartier des Moulins. Lundi, une fusillade y a éclaté et Christian Estrosi, le maire niçois, a été chahuté hier soir.
Nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République. Et nous allons continuer à lutter avec la première force contre tous ces trafics, quels que soient les quartiers, à Nice ou ailleurs.
L'actualité de ce jeudi 23 juillet, c'est aussi... Vous êtes
on n'a pas l'impression en fait, qu'on est dans une épidémie. J'ai honte. Non, je ne fais pas vraiment attention.
Vous l'entendez cette vacancière et vous êtes peut-être aussi sur la route des vacances. Vous pensez grands espaces, plages, soleil et les gestes barrières dans tout ça. Notre envoyée spéciale Caroline Baudry est allée vérifier comment cela se passe sur les plages. Reportage à suivre en Corse. La bourse de Paris a fini à Thônes, moins 0,07% et à 5033 points. À la fin de ce journal, la météo complète avec Valérie Darmon. À 22h20, votre tout nouveau rendez-vous, un livre pour l'été. Notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place, vous fait découvrir un nouveau livre chaque soir. Et puis, la bonne idée, c'est avec Thierry Dagiral qui salue les initiatives post-déconfinement.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un soldat français a été tué au Mali. Le soldat est mort dans l'explosion de son engin blindé. Un véhicule chargé d'explosifs en serait la cause. Didier François, quel est le contexte exact de cette explosion ?
Alors en fait, c'est un attentat à la voiture piégée qui a frappé un véhicule blindé léger du 1er régiment de hussards parachutistes. L'unité était partie en début de matinée hier pour une mission de reconnaissance sur la route qui relie les villes de Gossi et Gao dans la région du Gourma. C'est au centre du Mali, un axe assez fréquenté, important pour la population locale, pour son économie, ce qui explique l'attention que lui portent les troupes françaises. Ce que les groupes terroristes savent parfaitement, ils ont préparé cet attentat suicide en bourrant d'explosifs un véhicule civil qui est ensuite venu percuter le convoi militaire. Un jeune hussard parachutiste a été mortellement touché dans ce choc initial. Il est décédé très rapidement malgré les soins qui lui ont été prodigués sur place par l'équipe médicale de terrain. Les deux autres membres de l'équipage ont également été blessés. Ils ont été évacués sur les hôpitaux de l'arrière. Leurs camarades ont immédiatement sécurisé la zone en engageant le combat contre les terroristes qui semblaient être placés aux alentours en embuscade. Ils ont été appuyés par deux hélicoptères, par un drone, donc une force de frappe assez conséquente. Malheureusement, toutes ces précautions permettent de réagir rapidement à une attaque, mais elles ne peuvent pas prévenir un attentat suicide qui reste le mode d'action le plus redoutable pour des terroristes qui sont certes aux abois, mais toujours très déterminés et qui cherchent à prouver leur pouvoir de nuisance alors que la situation politique est aujourd'hui extrêmement tendue au Mali.
Les explications de Didier François. Mettre le paquet, voilà ce que veut faire Jean Castex, vous l'avez entendu. 6,5 milliards d'euros seront débloqués pour sauver les jeunes. Le Premier ministre a présenté ce plan jeune à Besançon, un dispositif pour inciter les entreprises à embaucher ces jeunes. Entre 700 et 800 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail en pleine crise du coronavirus. Olivier Samin, une mesure phare leur est réservée.
Oui, cette fameuse aide de 4 000 euros qui sera versée aux entreprises qui embaucheront un jeune de moins de 26 ans dans les 6 mois qui viennent, autrement dit entre le 1er août prochain et le 31 janvier 2021. 4 000 euros versés en 4 fois, 1 000 euros par trimestre, pour encourager les employeurs à prolonger le contrat des jeunes, sachant que le contrat doit être au moins un CDD de 3 mois. Tous les jeunes gagnant jusqu'à 2 fois le SMIC seront éligibles à ce dispositif. Ça, c'est une nouveauté par rapport aux premières annonces. Le 14 juillet, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait évoqué un plafond de 1,6 fois le SMIC qui conduisait, dans les faits, à exclure les jeunes diplômés Bac plus 5 ou Bac plus 6. Le patronat a fait un lobbying intense qui, on le constate aujourd'hui, a été payé en retour. Les jeunes diplômés entreront dans le périmètre. Avec ce dispositif concentré sur une période assez courte, 6 mois, le gouvernement cherche à accélérer les décisions d'embauche. L'objectif affiché, c'est 450 000 embauches de jeunes d'ici à la fin du mois de janvier.
1 du service économie d'Europe 1. Après les premières annonces, Matignon a renforcé son dispositif pour en faire bénéficier et les plus diplômés et les apprentis. Le syndicat UNEF reconnaît un effort, mais Majdi Charana, vice-président de l'UNEF, s'interroge.
C'est quand même un plan qui est assez massif, 6,5 milliards d'euros, donc ce qui est beaucoup. Mais par contre, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a une absence d'accompagnement social des jeunes pour leur permettre de pouvoir accéder à l'autonomie, pour pouvoir avoir un financement comme le RSA ou en tout cas des aides auxquelles ils sont actuellement exclus. Et donc on pourrait penser que ce plan cacherait aussi une aide de soutien aux entreprises sans forcément aider durablement les jeunes. Parce que lorsqu'on voit les mesures, il n'y a rien qui cadre ces aides-là pour assurer une contrepartie des entreprises pour engager les jeunes en CDI par exemple, ou en tout cas permettre à ce que les jeunes puissent être insérés dans le marché du travail durablement et de ne pas juste faire des effets d'annonce qui vont aider quelques jeunes dans la période, mais pas durablement.
Propos recueillis par Olivier Samin. Le Parlement valide le principe d'une cinquième branche autonomie de la Sécu. Pour la nouvelle ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, ce texte pose la première pierre d'une grande réforme du grand âge. Ses détracteurs accusent le gouvernement de creuser fortement le trou de la Sécu après le coronavirus. Jean Castex se rendra à Nice samedi. Gérald Darmanin y était, lui, dès cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le quartier des Moulins. Une fusillade y a éclaté lundi devant un supermarché. En pleine visite, Christian Estrosi a été chahuté hier soir. Une situation jugée inacceptable pour Gérald Darmanin.
C'est le travail du ministre de l'Intérieur d'être là où les policiers sont. Et ce qui s'est passé quand on voit un préfet courageux, un maire courageux, qui viennent saluer d'ailleurs les renforts de CRS que nous avons envoyés ici et qui se font pas bien accueillir dans un quartier, ce n'est pas acceptable. L'ensemble des élus et tous les citoyens sont partout chez eux en République. Et il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a pas d'endroit où on ne va pas en République. Donc moi je viens là où la police fait son travail, parfois un travail difficile, reprendre des mètres carrés aux trafiquants de drogue qui empoisonnent la vie des quartiers et qui tuent la vie dans ces quartiers que je connais bien pour être maire moi-même, c'est tout à fait inacceptable, on ne peut pas le laisser passer. Et si je dois venir effectivement à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, je viendrai à chaque fois pour assurer les policiers de mon soutien. On ne va pas laisser à nouveau la gangrène de la drogue se propager. Et je veux dire que nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République, ici à Nice comme ailleurs.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite à Nice.
Europe 1, le journal de la nuit. Yasmina Katou.
Vous êtes sur Europe 1, il est 22h08. C'est une information Europe 1. L'ex-ambassadeur du Vatican en poste à Paris, Luigi Ventura, sera bel et bien jugé en France au mois de novembre prochain. L'ancien nonce apostolique est accusé par 4 jeunes hommes d'attouchement. Salomé Legrand, c'est vous qui nous révéliez cette information dès ce matin.
Et oui, d'après nos informations, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle. Alors Luigi Ventura a toujours nié les faits et même parlé de complot. Il est accusé, vous l'avez dit, par 4 hommes au moins de leur avoir notamment mis des mains aux fesses. C'est la mairie de Paris qui avait fait un signalement au procureur en janvier 2019. Après le récit d'un jeune cadre municipal, celui-ci s'était plaint d'avoir subi ces attouchements répétés lors d'une cérémonie protocolaire qui avait lieu à l'hôtel de ville. D'autres ont ensuite raconté la même chose, comme Benjamin Guy, satisfait de ce renvoi.
C'est très très bien parce que compte tenu de son statut, de son pouvoir, c'était pas gagné d'avance. Depuis le début, l'objectif était que Luigi Ventura se présente devant la justice française pour répondre de ses actes. On a mis fin à l'immunité de Luigi Ventura. Il faut mettre fin maintenant à cette impunité, il va y avoir un procès et c'est une excellente nouvelle.
Après la rarissime levée de son immunité diplomatique par le Vatican l'an dernier, l'ancien diplomate catholique a fini par démissionner officiellement pour raison d'âge avant de retourner vivre à Rome, mais il sera présent à son procès, nous dit-on.
Et la levée de l'immunité diplomatique par le Vatican est un fait très rare. Le nonce mis en cause vit aujourd'hui à Rome. Il répondra à la convocation de la justice française, affirme son avocat, maître Bertrand Olivier.
Il a hâte de pouvoir s'exprimer et se défendre. Il y a des contradictions importantes dans ce dossier, des incohérences, des choses que nous mettrons en avant pour justifier de l'innocence de Mgr Ventura, qui a été, je le signale quand même, extrêmement marqué par ces accusations qui sont effectivement, compte tenu de leur nature, extrêmement infamantes. Voilà. Donc la phase de l'audience va être le moment où nous allons pouvoir effectivement rentrer dans les éléments de défense des incohérences que nous démontrerons devant les juges.
Maître Bertrand Olivier, joint par Salomé Legrand. Jean-Yves Le Drian est arrivé ce matin à Beyrouth, au Liban, pays ravagé par la crise économique. Le Liban est au bord de la faillite. Les habitants manifestent et dénoncent la dégradation des conditions de vie et surtout la négligence et le laisser-aller des politiques. À peine arrivé, le ministre des Affaires étrangères français a lancé un message très clair au gouvernement libanais, Nicolas Feldman.
Oui, il est urgent et nécessaire de s'engager dans la voie des réformes. Voilà les mots de Jean-Yves Le Drian. Urgence, il y a parce que le Liban traverse la pire crise économique de son histoire. Un pays en défaut de paiement, près d'un Libanais sur deux vit dans la pauvreté. En quelques semaines, en fait, la monnaie s'est totalement effondrée, perdant plus de 80% de sa valeur. Et cela impacte la vie de tous les jours. Écoutez par exemple Camille, il habite à Beyrouth.
Le prix du pain a augmenté de 50 à 60%. 10%. Beaucoup de produits, surtout importés, n'existent plus. Je cite là les médicaments et le tabac. En fait, rien ne va plus au Liban. Le pays s'est écroulé comme un château de cartes.
Voilà, l'urgence, c'est donc aussi de débloquer de l'argent frais. Mais pour cela, les bailleurs de fonds, la France en tête, exigent des réformes au Libanais, lutte contre la corruption, modernisation des infrastructures. Mais ces réformes ne viennent pas. Sami Nader est économiste.
Ces réformes-là, les Libanais les attendent depuis plus d'une décennie et ils n'arrivent jamais parce que ceux à qui on demande de réformer bloquent les réformes. Les partis politiques en présence se font financer par l'État. C'est une dilapidation de l'argent public.
Multiplier les rencontres pour obtenir des actes concrets, voilà le programme de Jean-Yves Le Drian à Beyrouth, lui qui a répété aujourd'hui aux dirigeants une formule désormais célèbre. Aidez-vous et la France ainsi que ses partenaires vous aideront.
Explication de Nicolas Feldman pour Europe 1. Une première depuis le mois d'avril aux États-Unis. Le taux de chômage repart à la hausse à cause de la flambée des contaminations au coronavirus. Plusieurs États du pays ayant dû fermer leurs activités économiques face à la flambée des nouveaux cas. Plus d'1 400 000 nouvelles demandes de chômage enregistrées la semaine dernière. La semaine précédente, déjà 1 300 000 personnes avaient pointé au chômage. Pourtant, le taux de chômeurs diminuait tout doucement depuis avril. La deuxième vague est bien là en France. 1 000 nouveaux malades du coronavirus en 24 heures. Bilan de la Direction générale de la Santé. Plus de 3 500 cas détectés la semaine dernière. C'est 27% de plus que la semaine précédente. Le nombre de cas augmente pour la troisième semaine consécutive. En cause, plus de gestes barrières, les vacances étant propices à un relâchement des comportements. Caroline Baudry, vous êtes notre envoyée spéciale en Corse. Comment ça se passe? Est-ce qu'on veille au respect des gestes barrières?
Eh bien ici sur cette plage d'Ajaccio, le contrôle est léger, m'explique Florent, chef du poste de secours. Casquette et lunettes sur la tête, il surveille la baignade. Il doit porter un masque et des gants pour manipuler son matériel, mais impossible de veiller aux gestes barrières sur le sable.
Mais sinon, on n'a pas de consignes concernant les distanciations physiques entre les personnes sur la plage. Personnellement, je pensais qu'on aurait au moins un briefing à ce sujet. Et on a été un peu étonnés que ça n'ait même pas été évoqué, rien du tout. On peut dire que ce qui se passe sur la plage, ça n'a pas vraiment changé.
L'ambiance est intacte, poursuit-il. Un cadre de vacances attendu par Sarah et Clément, des Lyonnais qui viennent d'atterrir.
On n'a pas l'impression en fait qu'on est dans une épidémie. J'ai honte. Non, je fais pas vraiment attention.
Néanmoins, c'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde. J'aurais vraiment changé d'endroit, je pense.
Résultat, c'est bien à chacun de faire attention en posant sa serviette. Pour l'instant, les distances sont respectées, mais cela pourrait se compliquer avec l'arrivée de nouveaux touristes, raconte Marie-France, qui habite Ajaccio.
Il y a des personnes qui sont nouveaux arrivants, qui s'installent avec un instinct grégaire qui fait qu'ils se rapprochent tout le temps de vous. J'ai déjà eu une altercation. J'étais très en colère, elle est partie. Je vais pas mettre un masque à la plage, hein. Impossible.
Allongée sur la plage, elle confie « Si l'espace est bondé, je laisserai ma place aux touristes qui, eux, n'ont pas la chance de vivre à la mer. »
Un reportage signé Caroline Baudry depuis l'île de Beauté pour Europe 1. Et un nouveau foyer de contamination au coronavirus a été découvert en Haute-Savoie. Le cluster serait apparu après une réunion familiale à Annecy le 14 juillet. 90 personnes sont potentiellement infectées. Au moins 12 personnes ont été testées positives. Un malade a été admis en réanimation. Et pour éviter une nouvelle chaîne de contamination, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'entamer une campagne de dépistage dans la région. Dans moins de 24 heures, coup d'envoi de la finale de la Coupe de France. À l'affiche, deux géants du foot français, PSG et Saint-Étienne. C'est le premier vrai match de compétition en France depuis le 11 mars dernier. Et pourtant, pas le frisson des grands matchs dans un stade de France quasi désert. Dans les tribunes, 5000 personnes, pas plus, c'est la jauge autorisée. Les supporters stéphanois ont préféré ne pas se déplacer. 900 places seulement leur étaient réservées. Contexte très particulier donc, confiait l'entraîneur stéphanois Claude Puel.
C'est un premier match de reprise, avec beaucoup d'interrogations, même si je pense qu'on a fait une préparation très intéressante, mais voilà, c'est très très particulier, avec ces remplacements, avec des possibilités pour cette équipe parisienne, s'ils baissent physiquement, de pouvoir injecter très vite d'autres joueurs hors normes. Le confinement, la pandémie, il faut s'adapter, prendre tout ça en considération et on défendra chèrement notre chance.
Claude Puel, entraîneur de Saint-Étienne, au micro de Cyril de la Morinerie. Et sport toujours, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre. Refus catégorique et formel du propriétaire de l'OM. Franck McCourt a rejeté l'offre de négociation de Mohamed Ajroudi, un homme d'affaires franco-tunisien. L'AFP a pu consulter un mail de réponse à la banque d'affaires Wingate. La banque était mandatée par Mohamed Ajroudi pour acheter le club de foot. Va-t-il à nouveau mordiller l'oreille de son adversaire? Le boxeur Mike Tyson est de retour sur le ring. À 54 ans, la légende des poids lourds disputera un combat exhibition contre son compatriote Roy Jones Jr., 51 ans. Le rendez-vous est donné le 12 septembre prochain à Los Angeles. L'ancienne terreur des lourds diffuse sur les réseaux sociaux des vidéos très impressionnantes de ses séances d'entraînement. Mike Tyson n'avait plus boxé depuis 15 ans. C'est la fin de votre journal, on passe à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Les prévisions météo, c'est avec vous Valérie Darmon. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour demain ?
Eh bien Yasmina, sur la moitié nord et jusqu'au nord de la vallée du Rhône, la journée va débuter sous les nuages, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, en tout cas pour ce jeudi. Mis à part sur les Pyrénées et les Alpes où le ciel est assez couvert, il fera beau partout ailleurs. Du sud-ouest au Jura, au fil des heures, le soleil va parvenir à s'imposer. Les éclaircies seront plus rares de la Bretagne aux Ardennes où quelques gouttes peuvent tomber. Mistral et Tramontane se lèvent aussi dans leur domaine, soufflant en rafale entre 50 et 60 km/h. Et le vent est aussi sensible sur les côtes de Provence. Voilà pour les petits bémols de ce vendredi. Les minimales, elles vont afficher 13 à 18 degrés en général, jusqu'à 19 à 23 en bord de Méditerranée. Les maximales, entre 20 et 24 de la pointe bretonne aux côtes de la Manche, 25 à 30 sur le reste du pays et jusqu'à 36 encore dans le Var.
C'était les prévisions météo signées Valérie Darmon. Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Yasmina Katou sur Europe 1.
C'est l'un des plaisirs de l'été. Tournez les pages d'un bon bouquin, que vous soyez sur un transat ou dans votre canapé. Europe 1 s'est associé à la prestigieuse librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, Stéphane Place, vous nous faites découvrir le roman Donbass, écrit par Benoît Vidkin, premier roman noir du correspondant à Moscou pour le journal Le Monde.
Une enquête sur une ligne de front, le Donbass. C'est là, dans cette région minière, que se déroule cette intrigue dans l'est de l'Ukraine, face aux séparatistes de Donetsk, sous l'influence de la puissante Russie voisine. Une guerre qui a déjà fait des milliers de morts, des maisons soufflées par les explosions, les coups de canon qui résonnent et auxquels les habitants ont presque fini par s'habituer. Bref, une poudrière qui ne justifie en rien l'assassinat d'un enfant. Le petit Sacha Zourabov est découvert, un poignard planté dans le ventre, comme un papillon épinglé dans le carnet d'un entomologiste, écrit Benoît Vidkin, qui signe là son premier roman noir qu'a dévoré Monica Irimia, libraire chez Mola.
C'est quelqu'un qui connaît très très bien cette région, que la plupart du monde a oublié, puisqu'on est maintenant sur une guerre paralysée, avec une ligne de front qui bougeotte à peine, où la mort est devenue une banalité. Et lui, l'intrigue de son polar, c'est une mort impromptue, le cadavre d'un enfant dans la neige. C'est une enquête policière qui sera menée par Eric Kavadze, un vétéran de la guerre d'Afghanistan, et qui du coup, pour mener à bien son enquête, est obligé de passer par la ligne de front, est obligé de discuter autant avec des Russes qu'avec des Ukrainiens, avec des pro-russes. C'est un premier roman extrêmement réussi.
Correspondant du journal Le Monde à Moscou, Benoît Vidkin nous entraîne avec talent dans les pas de ce flic qui va devoir faire face à son propre passé au fil des investigations. une histoire imaginée par le grand reporter devenu romancier.
J'ai couvert ce conflit comme journaliste pendant 6 ans. Pendant 2 années, en 2014-2015, au moment où il démarre et au moment où il est militairement chaud, là j'y ai été beaucoup, ensuite un peu moins, mais je continue à y aller régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'a assez profondément marqué. Et donc c'était un besoin assez personnel de m'exprimer d'une autre manière. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on va voir sur le terrain des gens qui sont dans cette région de l'Est de l'Ukraine, on peut leur parler plein de choses, on peut même écrire sur leur histoire personnelle. Mais on est là avant tout pour s'intéresser à ceux qu'ils vivent dans cette guerre. Sauf qu'en réalité, moi ça me passionnait de me rendre compte que cette guerre n'était souvent qu'un choc supplémentaire pour des gens qui en ont vécu beaucoup. Et ça, la fiction permet de le montrer beaucoup mieux, de s'intéresser à ce que tous ces chocs produisent sur la psychologie d'un homme ou d'une femme. Et la fiction permet aussi de bousculer ces personnages, en plus artificiellement, on va dire.
Avec des rebondissements qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière page dans cette zone de conflit où les petits trafics perdurent au milieu des bombardements et où il vaut mieux se méfier des évidences.
On se méfie, Stéphane Place, merci. C'était la chronique avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous pour une autre découverte demain. Même heure, autre rendez-vous estival sur Europe 1. La bonne idée, tous les soirs avec Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après la crise sanitaire et économique, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Caroline Lopez.
Bonsoir.
Vous êtes la créatrice de Story Enjoy. Alors il y a des familles par exemple qui ne vont pas pouvoir prendre l'avion pour se voir cet été, des petits-enfants qui ne peuvent pas se rendre en EHPAD voir les grands-parents. Vous avez la solution.
Oui, effectivement, on a la solution. Effectivement, Story Enjoy, c'est, déjà vous l'avez dit, c'est une histoire de famille hein, pour commencer, avec mon petit garçon qui a toujours adoré que sa mamie lui raconte des histoires, avec une mamie qui vit à quelques milliers de kilomètres. Et c'est exactement ce qu'on a tous vécu pendant ce confinement et ce qu'on va vivre pendant cette période de vacances très particulière.
Dites-nous, hein, c'est quoi le principe alors?
Alors, le principe de Story Enjoy, c'est une application qui permet à tous les membres de la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, d'enregistrer des histoires, des livres en vidéo aux enfants, en fait. Et ces enfants vont pouvoir, les petits-enfants, vont pouvoir les voir et les revoir à la demande.
Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, on peut s'y mettre une pincée de choses, de touches personnelles dans ces histoires? Comment ça se passe?
Alors oui, bah, en fait, c'est clairement, c'est beaucoup de cœur, en fait. Comment ça se passe? On choisit d'abord une histoire qu'on sait qui va faire plaisir à l'enfant qu'on a envie de gâter. Et au travers de l'application, en quelques clics, c'est très, très simple, c'est ce qu'on voulait. La vidéo, la webcam hein, se déclenche du téléphone ou de la tablette ou de l'ordinateur. Et là, on suit le prompteur. Et c'est un enregistrement qui est fait de l'histoire qu'on est en train de raconter.
D'accord.
Voilà, donc avec toutes les mimiques, tous les regards, tous les sourires. La force de Story Enjoy, c'est vraiment la vidéo, en fait.
Très bien. Et ça coûte combien, dites-moi?
Ça coûte, en fait, c'est des histoires qui sont vendues. Bon, d'abord, la première histoire, avant tout, est gratuite.
Ouais.
C'est l'envie de pouvoir en faire profiter tout le monde. Et puis, ensuite, ces 3 histoires vont coûter 15 euros. Des packs de 10 histoires, 29 euros. Et on a vendu pendant le confinement, effectivement, où on a offert pas mal de packs. Derrière, on s'est rendu compte qu'on vendait beaucoup de packs illimités, c'est-à-dire pour une année, pour 49 euros, je raconte, autant d'histoires que je veux.
Voilà. C'est la bonne idée du soir. On voulait vous tirer un coup de chapeau. Merci beaucoup, Story Enjoy. Merci à vous, Caroline Lopez.
Merci beaucoup, Thierry.
La bonne idée tous les jours sur Europe 1, c'était avec Thierry Dagiral. Dans un instant, l'actualité de vos journaux de demain. On regardera les unes de la presse, mais avant, une petite pause musicale avec Lewis Capaldi et Before You Go.
Europe 1, le journal de la nuit.
Petit problème technique, on retrouve Lewis Capaldi et Before You Go, c'est tout de suite sur Europe 1. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
your mind can make you feel so afraid of soul. Before you go, was never the right time, whenever you called, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold, well, time can heal but this won't. So
c'était Before You Go de Lewis Capaldi sur Europe 1. Dans un instant, on ouvre le journal, ou plutôt les journaux. A tout de suite sur Europe 1. À la une de vos quotidiens, demain matin, la une de Libération, des tribunes vides en photo, je vous en parlais. La finale de la Coupe de France se jouera demain dans un stade de France quasi désert, seulement 5000 supporters du PSG, pas de Stéphanois. Est-ce vraiment du football, se demande Libération. Réponse à retrouver en page 2 à 5 de Libération demain. Aujourd'hui en France fait aussi sa une sur le foot. Le foot est enfin de retour, titre le journal. On en parlait aussi, la pandémie hors de contrôle aux États-Unis, titre le quotidien. L'Humanité, le journal zoom sur le Texas où les travailleurs pauvres sont les plus frappés par la vague du Covid-19. Document à retrouver en page 2 de l'UMA. Et une lueur d'espoir pour le Figaro dans la crise économique. Le Figaro a reçu Bruno Le Maire et vous découvrez cette... Et vous découvrez cette interview dans les pages du Figaro à retrouver demain. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout de suite à 22h30 Olivier Delacroix. C'est avec vous, c'est pour la Libre Antenne.